Aquitaine.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Vous savez peut-être que j'ai passé mon enfance à Poitiers, où se trouve l'une des plus belles salles d'architecture civile des 12e, 13e siècles. Immense salle qui fait 50 mètres sur 17 au sol, hein, avec une grande charpente. Alors bien sûr, du côté sud, il y a de grandes cheminées flamboyantes qui ont été construites là beaucoup plus tard pour Jean de Berry, le commanditaire des très riches heures. Mais les trois autres murs de cette magnifique salle ont été bâtis par Aliénor d'Aquitaine. Il y avait là de quoi stimuler l'imagination d'un jeune passionné d'histoire, inutile de vous dire, d'autant plus qu'à l'école, on nous parlait toujours des exploits d'Aliénor. On dit Aliénor, c'est la version occitane d'Éléonore en langue d'Oïl. On parlait de son enfance à Bordeaux, dans le palais de l'Ombrière, de son mariage avec le prince héritier des Francs, devenu presque aussitôt le roi Louis VII, de son caractère emporté, du rôle qu'elle avait pu jouer dans la deuxième croisade et de ses déboires conjugaux, et de son second mariage avec le comte d'Anjou, qui presque aussitôt était devenu roi d'Angleterre, et de ses relations orageuses avec ce trop jeune mari, Henri II Plantagenet, et la manière dont elle avait soulevé contre lui leurs enfants, dont le fameux Richard Cœur de Lion, bien sûr. Nous parlions entre nous beaucoup de l'extraordinaire vitalité de cette femme jusque dans son grand âge. Elle a joué un rôle encore dans le mariage de Blanche de Castille, sa petite fille, avec l'héritier de Philippe Auguste. Bref, on nous rappelait aussi qu'elle était morte à Poitiers le 1er avril 1204, c'est-à-dire juste avant la date du sac de Constantinople par les barons de la quatrième croisade, emmenée par les Vénitiens. Et puis on nous berçait du souvenir des cours d'amour qu'avait institué cette petite fille de Guillaume IX, le duc d'Aquitaine, qu'on appelait Guillaume le Troubadour. On nous racontait le rôle qu'avaient pu jouer ces cours d'amour dans le polissement des mœurs, dans le raffinement de la culture, avec des joutes d'art oratoire et de bel esprit qui forcément avaient eu pour cadre la grande salle du palais de Poitiers, devenue à l'époque palais de justice. Plus tard seulement, je devais apprendre, et même je devais comprendre, que notre poitevine Aliénor avait peut-être plus et sans doute mieux que d'autres incarné dans l'histoire cette époque charnière tellement déterminante où l'on est passé de l'art roman à l'art gothique, où l'on est passé de la féodalité à la royauté, du primat de la force au primat de la courtoisie. C'est un temps fascinant qui devait faire le trait d'union entre le néoplatonisme augustinien et puis le retour d'Aristote via saint Thomas d'Aquin. Une période qui est à la fois brutale dans ses mœurs et extrêmement raffinée dans ses aspirations. Une période où la foi la plus ardente entretient, au lieu de les éteindre, des conflits temporels brûlants comme la fournaise sous le creuset.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Aliénor a 15 ans. Tout juste 15 ans, quand son père, qui est le duc d'Aquitaine, Guillaume X, une sorte de géant, hein, il a 38 ans à l'époque, il est parti faire le pèlerinage de Compostelle et il y meurt. Et la voilà orpheline, d'autant plus vulnérable que c'est à elle qu'échoit cette espèce de gigantesque et fastueux duché. Avant de rendre l'âme, le duc tout de même avait eu le temps de dépêcher un messager à Paris au roi Louis VI de France pour lui confier sa fille et pour charger le roi de France, on disait le roi des Francs à l'époque, pour le charger de lui trouver un époux digne d'elle. Alors Louis VI, c'est Louis VI le Gros, hein, ce gros capétien qui ne va pas chercher bien loin. Pour épouser la somptueuse Aliénor, héritière de ce grand-duché, eh bien, il va choisir son fils cadet, qui est héritier du trône depuis la mort accidentelle de l'aîné Philippe. L'aîné était mort en butant sur un cochon. Bon, ça, c'est une autre histoire. Le très pieux élu est un petit peu taciturne, disons, mais à Paris, on se frotte les mains, l'alliance est rondement menée et c'est un mariage d'héritier qui est célébré en l'an de grâce 1137 dans la cathédrale de Bordeaux, la cathédrale Saint-André. Il faut imaginer cette jeune et belle orpheline qui dépose dans la corbeille nuptiale toute Loire d'Aquitaine, autant dire tout le sud-ouest de l'actuelle France, vous imaginez, et qui s'unit devant Dieu à ce jeune prince de 17 ans qui lui-même ploie sous le fardeau de ses devoirs. Faut pas s'y tromper, les ducs d'Aquitaine ont beau être vassaux des rois de France, ils sont à la fois plus riches qu'eux, beaucoup mieux pourvus en territoire, et puis surtout, ils se trouvent à la tête de cités brillantes, Bordeaux, Toulouse, Clermont, dans un état qui est encore latinisé, qui est ouvert sur l'Orient, qui porte une culture bien plus élaborée que celle du petit état capétien. Ce qu'on appelle la France à l'époque, hein, c'est grosso modo l'Île-de-France d'aujourd'hui, avec ses vrais Paris, Mantes, Senlis, Melun. Ce sont de grosses bourgades de campagne, il faut dire les choses comme elles sont. Et il semble que les jeunes mariés aient compris le rapport de force. Entre parenthèses, ils se sont plu l'un à l'autre. Il est vrai qu'ils sont charmants, ils sont tout jeunes, ils ont devant eux toute la fortune du monde. Et au moment où la cérémonie achevée, ils remontent déjà vers Paris, le destin va changer ce qui était un avenir assez radieux en un présent angoissant. Ils sont à peu près à mi-course, hein. Ils sont en train d'entrer dans Poitiers, ben oui, par le pont de Monterneuf, quand un chevaucheur apporte une nouvelle fracassante. À Paris, le roi Louis VI vient de mourir. Les voilà donc, alors qu'ils sont tout juste mariés, les voilà tous les deux propulsés sur le trône. Place au roi Louis VII et à la reine Éléonore de France. J'aurais peut-être dû préciser que sous cette harmonie de façade se cachait déjà une violente divergence de nature entre cette petite duchesse d'Aquitaine, assez incroyable, et le jeune roi de France, très sérieux, trop sérieux. Il est très versé dans la religion, Louis VII, il est pénétré des principes de cette vie monastique à laquelle d'ailleurs il se destinait à l'origine. Et il va reporter sur la politique toute la manne de sérieux et de concentration que peut receler ce caractère dont vous aurez compris qu'il est très différent du caractère de cette petite jeune fille légère, coquette, un petit brin hérétique, qui cherche à profiter des joies de la jeunesse, de tout ce que la vie peut offrir à une souveraine en début de règne. C'est normal. Elle soupire à l'idée de partager sa vie avec ce garçon, c'est vrai, très respectable, mais un peu confit en dévotion quand même, et qui est toujours dans ses jeûnes, ses prières et ses pénitences. Est-ce par compensation qu'elle se met bientôt à pousser le nouveau roi dans une forme de bellicisme ? En tout cas, elle fomente de folles équipées, elle presse son trop sage époux de porter le fer contre un certain nombre de ses vassaux qui sont très puissants, le comte de Toulouse, le comte de Champagne notamment, mais aussi le redoutable évêque de Bourges. Peut-être que pour elle, l'idée c'est de détourner aussi l'attention de ce qui l'a fait regarder par beaucoup comme maudite, parce que pour l'instant elle est quand même incapable de donner à la dynastie cet héritier que tout le monde attend. C'est ça le rôle d'une reine, n'est-ce pas ? Donner des enfants, donner des fils à la dynastie. Et les mois passent et le petit prince tarde à venir. Hein. C'est pas faute pour la reine de multiplier les actes de contrition. Elle s'en est même remise au célèbre Saint Bernard, Bernard de Clairvaux, vous savez, qui lui a promis un enfant. Et de fait, elle va enfin être enceinte. Mais elle met au monde une petite fille, Marie. Sur le trône de France, ça ne sert pas à grand-chose, une petite fille. Il y a la loi salique, n'est-ce pas ? Or, justement, Saint Bernard va prêcher une deuxième croisade. Et Louis VII s'en dispenserait de ça. Aliénor, soit par diversion, soit par goût de l'aventure, le pousse vers l'Orient. On est là au printemps 1147. Les voilà déjà à Antioche, où ils sont les hôtes du prince Raymond de Poitiers, un parent d'Aliénor, qui passe pour le plus bel homme de son temps. Est-ce que la nièce va, comme le dit la chronique, succomber au charme de l'oncle ? En tout cas, il y a un véritable scandale. Et même si Louis VII est religieux, il est quand même lucide. Avant que sa femme n'ait donné prise à ce scandale, il décide de l'enlever carrément et de la ramener en Europe avec lui. Or, c'est toute une équipée très rocambolesque. Louis et Aliénor retraversent la Méditerranée par convois séparés. Il se trouve qu'elle est capturée par une escadre byzantine. Ce sont des Normands qui vont la délivrer, la rendre à son mari. Entre nous soit dit, elle n'a pas tellement envie de se retrouver avec son mari, mais le pape va les pousser, si je puis dire, dans le même lit. Et d'ailleurs, à son retour en France, Aliénor donne le jour à un second enfant, encore une fille. À la porte du château, un extrait de la suite Péléas et Mélisande de Jean Sibelius. L'orchestre philharmonique de Berlin était sous la direction de Herbert von Karajan.
Vous écoutez Radio Classique.
Elle en a assez, Aliénor, de ce mariage qui dure depuis 15 ans maintenant. Dans le secret de sa conscience, elle cherche un nouvel époux. Et c'est là qu'entrent en scène les comtes d'Anjou, le père et le fils. Des Plantagenets, n'est-ce pas, qui sont suzerains d'un vaste territoire entre la Loire et la Seine. Le mariage du père Geoffroy avec la petite fille de Guillaume le Conquérant lui a donné la Normandie. Or, l'ambition des Plantagenets n'a pas de limite et Geoffroy d'Anjou va jusqu'à nourrir des prétentions sur la couronne d'Angleterre. Alors, quand est-ce que Aliénor a fait sa connaissance ? En 1151, sans doute. Au moment où il est venu à Paris pour négocier avec Louis VII, il est venu d'ailleurs avec son fils Henri. Aliénor a trouvé en eux des chevaliers comme elle les aime, ambitieux, énergiques, bons vivants, mais fins lettrés en même temps. Bref, en septembre de la même année, Geoffroy se baigne dans le Loir, il fait trop froid, il tombe malade, et il finit par mourir. Est-ce que les projets secrets de la reine de France sont anéantis ? Non, non, pas du tout. Le père disparu, Aliénor reporte la mise sur le fils. C'est vrai qu'elle a 10 ans de plus qu'Henri, mais elle se dit que c'est pas très grave, elle est très belle, très active et surtout très puissante. Je vous ai dit qu'elle était très riche, c'est l'héritière de l'Aquitaine quand même. Bref, à ce stade, elle est encore mariée quand même, mais elle va réussir à embobiner le roi Louis, qui envisage favorablement une annulation du mariage de 1137. Le roi et la reine sont apparentés, il existe un vague cousinage entre eux, mais c'est suffisant pour obtenir une annulation. Louis VII se prête au jeu et pour les Rameaux 1152, on réunit à Beaugency un concile qui va décréter l'annulation du mariage. Oh ben ça c'est extraordinaire, c'est exactement ce que voulait Aliénor, qui, à peine arrivée à Poitiers, va épouser dans la cathédrale de Poitiers le jeune duc d'Anjou, Henri. Des fêtes magnifiques, hein, le vin de Bordeaux, dit-on, coule à flot. Vous imaginez à Paris la colère de Louis VII qui comprend qu'il s'est complètement fait avoir. Il va essayer d'en découdre avec ce jeune malotru, là, avec Henri qui lui a d'une certaine manière volé sa femme quand même. Sauf que Aliénor a déjà envoyé Henri à Londres. Le roi de France attaque des troupes angevines sur les terres de Normandie. Après 6 semaines de combat, finalement, c'est Henri qui l'emporte. Louis rentre à Paris complètement dépité. Et maintenant, Henri Plantagenet va pouvoir se lancer dans une véritable conquête de la couronne d'Angleterre. Et il devient roi d'Angleterre. Ce qui fait que Aliénor, après avoir été reine de France, devient reine d'Angleterre. C'est pas beau, ça. En plus, elle est très amoureuse de son jeune époux. Les naissances vont se succéder maintenant et vont donner à la dynastie des Plantagenets toutes sortes de petits princes. Dans la pratique, tandis que Henri II administre les États au nord, Aliénor a tout loisir de reprendre en main toutes les vieilles possessions dynastiques de sa famille. Elle redevient une sorte d'hyper-duchesse d'Aquitaine qui s'installe à Poitiers dans cette atmosphère de triomphe où vont s'épanouir ces tribunaux d'amour, ce qu'on appelle les cours d'amour, où est en train de s'épanouir la civilisation occidentale.
Thank you.
Thibaut Garcia à la guitare, accompagné par l'Orchestre National du Capitole de Toulouse sous la direction de Ben Glasberg, interprétait, d'après Robert de Vizé, ce menuet d'Alexandre Tansman.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors, ce serait mal connaître Aliénor d'imaginer que désormais elle est rangée. Elle a toujours cette soif de pouvoir et quand elle découvre notamment que son jeune mari Henri Plantagenet la trompe, elle voit rouge de nouveau et elle va dresser peu à peu, discrètement, les enfants d'Henri contre leur père. D'abord Henri le Jeune, qui à l'époque a 14 ans, Richard, qu'on appelle Cœur de Lion, qui en a 12, Geoffroy, qui en a 11, etc. Et par conseiller interposé, elle va convaincre son mari d'établir ses fils, de sorte que lorsqu'on leur a donné des territoires, on leur a donné aussi les moyens de battre leur père. En 1173, il y a un grand conseil qui se tient à Limoges et le fils aîné qui a 18 ans maintenant va s'opposer ouvertement à son père sur la question de la dotation du dernier frère, le petit Jean qui n'a rien, lui qu'on appelle Jean sans terre. Le père tombe des nues. Évidemment, il ne peut pas s'empêcher de voir la signature d'Aliénor au bas de ce qui est une sorte de petit coup d'État. Et il décide de reprendre Henri sous sa coupe. Sauf que un beau matin, à Chinon, le jeune prince arrive à fausser compagnie à son père. Le voilà qui court chercher refuge auprès de qui ? Mais auprès du roi de France, auprès du fameux Louis VII qui savoure sa revanche. Quand Richard et Geoffroy gagnent Paris à leur tour, la cour de l'ancien mari de leur mère, vous imaginez la situation, Henri décide de relever le gant. Il réunit toute une armée, il descend vers l'Aquitaine. À ce moment-là, Aliénor, qui a senti le vent tourner, est prête à aller se réfugier elle aussi, mais elle est arrêtée par les hommes de son mari. Et voilà qu'elle est mise en prison. Et ça va durer longtemps, cette affaire. Ça va durer 15 ans où elle va passer de forteresse en monastère. Ce sont des prisons dorées, mais ce sont quand même des entraves terribles à sa liberté.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et c'est seulement en 1189, au moment où Henri II, qui en a assez de se battre contre ses propres fils, finit par se laisser mourir, c'est à ce moment-là qu'elle recouvre sa liberté. Et là, ça va être un moment de grâce. Elle a 67 ans, mais toujours bon pied, bon œil. Et c'est elle qui, en vérité, à travers Richard Cœur de Lion, va véritablement régner. Richard va faire cette croisade, vous savez, avec le nouveau roi de France, Philippe Auguste. Aliénor est septuagénaire maintenant, elle réussit à déjouer tous les pièges de la régence, elle tient le pouvoir et elle apprend en 1192 que Richard, alors qu'il était sur le chemin du retour, est tombé dans un traquenard, qu'il est prisonnier d'un prince allemand. Il va falloir réunir une énorme rançon. Elle remonte à cheval, la vieille reine, elle va voir tous ses alliés, tous ses vassaux, et elle réunit la rançon pour aller libérer son fils. Le 2 février 1194 à Mayence, Richard lui est donc rendu. Elle a triomphé de l'adversité et là, elle va se retirer dans la grande abbaye qu'elle a fait bâtir à Fontevraud. Et il faudra la mort de son fils adoré. Vous savez que Richard Cœur de Lion sera tué par un carreau d'arbalète à Chalut. Il faudra cette mort pour l'amener à ressortir de ce qui était une douce retraite. À 77 ans, on la verra encore traverser les Pyrénées pour aller chercher parmi ses petites filles castillanes une épouse pour Philippe Auguste. C'est Blanche qu'elle va choisir, Blanche de Castille. Quant à son dernier fils, Jean sans terre, on ne peut pas dire qu'il soit ni digne de son père ni digne de son frère. Il multiplie les maladresses, il va perdre la Normandie face aux Français. Normandie donc qui rejoint le giron français. Et c'est à l'annonce de cette nouvelle qui pourrait les calamiteuses qu'Aliénor, après une dernière chevauchée poitevine, va se laisser mourir. À Fontevraud, disent certains historiens, à Poitiers, préfère penser celui qui allait se recueillir dans les vestiges de sa gloire passée.
Vous écoutez Radio Classique.
En ce très républicain 11 novembre, je vous annonce que nous continuerons avec les reines de France dès demain, puisque Nous évoquerons demain la reine Isabeau de Bavière et puis toutes les autres comme ça jusqu'à la fin de la semaine.
Marie-Antoinette d'ailleurs.
Exactement, il porte son œillet bleu comme il se doit à la boutonnière. Voici Christian Morin. Bonjour Christian.
Évidemment, mais cet après-midi, la reine Blanche de Castille va être honorée par vous, mon cher Franck, dès 14h. Prochain rendez-vous avant de retrouver Pauline Lambert, bien sûr. Passez une bonne journée. Et on...